On est en veille d'inondation là, un peu partout. Les niveaux sont assez élevés. Là, on sent que la neige fond dans le nord. Il y a des pluies également. Puis là, bon, on se demande, est-ce que ça va inonder? On parle d'inondation moyenne, pas comme dans les niveaux qu'on a vus en 2017-2019, peut-être comme ce qu'on a vu en 2023. Ça reste à voir. Avec nous pour en parler, les membres fondateurs de l'Alliance des inondations de la rivière des Outaouais et sinistrés en 2017 et 2019. Son nom, c'est Alexandre Morin. Bonjour, M. Morin.
Bonjour, Michel. Ça va bien ce matin?
Ben moi, ça va bien. Vous, j'imagine, vous êtes inquiet actuellement de voir comment ça va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines heures?
Oui, c'est toujours l'anxiété qui revient là, depuis les 10, plus ou moins 10 dernières années là, à voir qu'est-ce qui nous attend là, cette année. Malheureusement, on ne peut plus juste se fier sur l'état de la neige qui a tombé l'hiver. Donc, oui, c'est un moment d'anxiété pour beaucoup de riverains et de municipalités, d'ailleurs.
Quand vous dites « on ne peut plus juste se fier sur la neige qui a tombé l'hiver », vous faites forcément allusion à la gestion des barrages par Hydro-Québec. J'ai questionné quelqu'un d'Hydro-Québec il n'y a pas si longtemps, puis eux autres, ils disent qu'ils sont au minimum des réservoirs, ils peuvent pas retenir, ils peuvent pas vider plus que ce qu'ils ont vidé cette année, ils peuvent pas retenir de l'eau non plus, ces filaires du côté de Carillon. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « on ne peut plus se fier juste sur la fonte des neiges pour parler d'inondation »
Mais c'est certain. Une des recherches que l'AIRO a fait, ça a vraiment été se pencher sur la gestion des barrages. Il n'y a aucune autre recherche qui a été faite sur la rivière. On entend souvent il n'y a rien qui peut être fait au niveau des barrages. Ça dépend toujours de la question qui est posée. Donc, la question qui est posée revient toujours à la priorité des utilités des barrages. Est-ce que l'utilité des barrages peut être optimisée afin de laminer encore plus les inondations? Et puis la réponse qu'ils trouvaient, c'est oui. Donc, comme c'est là, le but du système est de rapporter un peu l'écoulement des eaux du bassin de la rivière des Outaouais à un niveau naturel. Cependant, nous, ce qu'on a découvert au niveau de notre recherche, c'est vraiment on pousse les gouvernements à optimiser la gestion des barrages pour vraiment être en mesure de réduire les inondations. Et d'après notre recherche, on voit que c'est possible. Donc, je t'ai partagé un document aussi qui a été envoyé à la MELCC hier, qui est le législateur des barrages au Québec. Donc, qui nous démontre très bien donc l'abaissement du niveau de Carillon qui n'est pas fait. Donc, on a plusieurs municipalités aussi qui ont poussé au niveau du gouvernement de l'Ontario aussi et du Québec pour que cet abaissement-là soit fait.
Mais Carillon, c'est quoi le fond de l'histoire? Parce que j'ai entendu ça auparavant, mais le monsieur d'Hydro-Québec, M. Poinlan, est venu nous dire « Carillon, on ne peut pas vraiment rien faire avec, c'est une station filaire, c'est au fil de l'eau. Expliquez-vous si on peut ou pas abaisser, si on peut ajuster le niveau de l'eau à Carillon. »
Mais les documents qu'on... C'est partiellement vrai qu'il est au fil de l'eau, mais il est au fil de l'eau dépendant toujours du niveau que tu gardes en amont. Donc, par exemple, si tu baisses le niveau, ben il y a un petit peu plus d'eau, l'eau va se rendre un petit peu plus rapidement à Carillon. En fait, c'est pas nous qui le dit, c'est leur plan de gestion. Le plan de gestion d'Hydro-Québec, signé par les ingénieurs hydriques d'Hydro-Québec, c'est eux qui parlent du refoulement dans la région de Hull. Quand le niveau en amont est gardé en haut de la cote de 40,08, c'est pas une invention qu'on fait, là, c'est leur propre document.
Puis pour garder le niveau en haut de 40,08, est-ce que c'est une manipulation d'Hydro-Québec qui fait ça ou si c'est naturel?
Ben c'est certain que c'est une manipulation. Tu sais, ça reste que c'est un gros, on peut l'appeler un barrage. Écoute, c'est une grosse structure de ciment avec des portes qui empêchent l'eau de passer. Là. Donc, tu sais, à moins que les portes soient ouvertes et puis qu'on laisse vraiment passer tout l'eau, là, on va pouvoir dire que le barrage, le seuil du barrage est à peu près à 31 mètres. Et puis, le niveau en ce moment est à 40,05. Donc, ça reste qu'il retient de l'eau. Et puis, je reviens toujours à leur plan de gestion. Le plan de gestion est clair. Il est écrit par eux, par leur ingénieur. Donc, ça a été modifié ou on fait tout simplement plus obéir à ces contraintes-là en tant que groupe épargnant.
Et puis ça, les plans de gestion, vous les avez en main, c'est public, ça?
Ça devrait être public, ça devrait être, mais ça l'est pas, non. On est venu à bout de les obtenir sous des accès à l'information, sous différentes méthodes de pression. Et puis, Hydro-Québec font seulement nous dire qu'ils ne poursuivent plus cette manœuvre d'abaissement du niveau comme ils le faisaient avant.
Puis, votre présomption, c'est pourquoi, d'après vous?
Mais tu sais, ça reste que Hydro-Québec, c'est une compagnie qui est là pour faire c'est une compagnie qui est là pour faire de l'hydro. Et puis je peux pas les blâmer. On a tout besoin d'hydro. C'est une très, très bonne manière de faire de l'énergie plus verte. Donc, cependant, ça apporte une grande conversation au niveau de toutes les recherches qui ont été faites sur les plaines inondables. Si on parle d'augmenter les niveaux en amont des barrages, les réservoirs, malgré ce que Hydro-Québec vous dise, ne sont pas abaissés à leur seuil minimum. C'est basé sur des faits.
Non, mais ils ne sont pas au seuil minimum parce que, dit-il, M. Poinlan l'a dit, je m'en souviens très bien, c'est parce que l'eau arrive trop vite, tout est ouvert, mais c'est comme n'importe quoi. S'il y a plus d'eau qui rentre, qui sort, bien, ça va monter. C'est ça qu'il nous dit. Vrai ou faux?
Ça dépend encore là. Michel, je reviens à la question. La question, c'est toujours là. C'était très, très, très spécifique au réservoir du Témiscamingue. Il y a 4 à 5 gros réservoirs en haut. Donc, ça dépend toujours de la capacité ou de l'abaissement de ces réservoirs-là. Donc, tu sais, si les réservoirs, celui le plus au nord, n'est pas complètement abaissé, mais lui va toujours laisser passer de l'eau dans le Témiscamingue également, là. Donc, tu sais, c'est pas les réservoirs, on ne peut pas les regarder comme étant uniques, qui se déversent uniquement dans la rivière. C'est toute une chaîne. Donc, il y a 4 à 5 réservoirs qui se vident dans le Témiscamingue. Donc, on ne peut pas juste regarder celui-là. Là.
La question qui tue, comme on dirait, là, c'est que si, mettons, on n'avait pas besoin de produire d'électricité, là, d'après vous, est-ce qu'on viendrait à bout d'éviter toutes les inondations?
Bien, c'est un peu ça la grosse question. Michel, tu mets le doigt dessus. C'est est-ce qu'on pourrait avoir une étude? Puis pour nous, la réponse, c'est oui avec les études qu'on a faites, mais il faudrait avoir une vraie étude qui donne une grande priorité ou 100% de la priorité à la prévention des inondations dans la gérance de notre infrastructure. Donc ça veut dire les réservoirs et les barrages. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Parce que là, on change les cartes de zones inondables, on exproprie des gens constructivement. En fait, ils ne peuvent pas aller chercher d'assurance, ils ne peuvent plus aller chercher d'hypothèque parce qu'ils sont maintenant dans des zones inondables. Cependant, sur l'autre côté, on sait par fait qu'on peut augmenter la capacité du système pour nous protéger contre les inondations. Donc, c'est une grosse bataille, là.
Cette semaine, d'après vous, là, selon vos critères à vous, vos observations, ça risque de donner quoi, là, ce qui s'en vient dans les prochains jours?
Donc, une des choses que la CPRO fait super bien, un de leurs mandats principaux, c'est de faire la projection de ce qui s'en vient. Et puis ça, on peut bien se fier à leur site web pour regarder ce qui s'en vient. Et puis, c'est certain, s'il y a de la pluie, tu sais, la manière que les réservoirs et les barrages sont gérés, en partie, ils ont raison de dire que ça prend juste un épisode de pluie majeure pour nous apporter par-dessus les seuils d'inondation. C'est de la manière que le système est géré maintenant. Ce n'était pas le cas dans le début des années 80 où toute l'optique était mise sur la gestion des réservoirs et des barrages.
Fait que là, ben, vous pensez que ça va monter un peu, puis ça va être un niveau moyen, puis ça va repartir par après, c'est ça?
Bien, encore là, on nous laisse avec la gestion actuelle, on nous laisse à la merci de la météo, Michel. Si on a de la pluie, on est dans le trouble. Si on n'a pas de pluie, bien, on est chanceux.
à suivre, évidemment. Ça, ce que vous me dites, avez-vous envoyé des documents au ministère là-dessus? Parce que je comprends que vous faites des représentations pour ouvrir le dialogue avec le ministère là, du changement climatique, là, de l'énergie et des changements climatiques.
Oui, c'est bien ça. Mais c'est le législateur, hein. C'est eux qui doivent imposer des conditions de gérance au barrage au Québec et MNRF en Ontario. Donc, on a pris des pressions sur les deux gouvernements parce que les deux gouvernements étaient sous le prétexte que sur la rivière des Outaouais, on laisse les ouvrages gérés par les opérateurs de barrage. Donc, on leur donnait très, très peu de structures législatives à suivre. On se fie en gros sur leur bon vouloir. C'est assez spécial comme concept.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça ajoute une autre voix parce qu'il y en a tellement, à la suite de l'entrevue avec M. Boisvert l'autre jour, tellement de personnes qui semblent dire c'est exactement ça. Mais quand les gens d'Hydro-Québec viennent, on dirait qu'eux sont capables de dire ben non, vous êtes dans l'erreur. On peut pas gérer Carillon comme vous le pensez. Puis Témiscamingue, ben il y a plus d'eau puis ça passe. On peut pas. On a une marge de manœuvre pas mal plus petite que ce que vous semblez penser dans le fond. C'est ça que nous dit Hydro-Québec.
C'est ce qu'ils nous ont dit également. Ce n'est pas ce que nous, notre recherche a sorti.
Merci beaucoup, M. Morin. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Merci, Michel.
Bonne chance pour les inondations cette année. On s'arrête là-dessus. Il est membre fondateur de l'Alliance des inondations des rivières des Outaouais. On a fait parvenir des documents aux autorités provinciales. Eux croient encore aujourd'hui qu'il y a des manœuvres qui pourraient être faites pour éviter les inondations. Est-ce que c'est le cas? Et puis la question, elle est légitime. Est-ce qu'Hydro-Québec manœuvre actuellement? Puis la question est bonne. Pour produire, protéger de l'énergie. Sans doute que c'est légitime. C'est ça qu'ils font dans la vie. Et ils vendent ça, eux autres, de l'électricité. Mais est-ce que c'est au détriment des risques d'inondation? Pas toujours inondés, mais est-ce que ça augmente le risque d'inondation, comme on a vu dans les 10 dernières années? C'est ça la question que ces gens-là se posent. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. On va parler de mon équipe, en tout cas, votre équipe aussi peut-être, votre équipe d'adoption, si vous êtes un partisan du Canadien, vous avez droit à un meilleur deuxième. Je pense que les sénateurs, hier, vous ont fait la preuve qu'ils sont là pour vrai. Une belle victoire, on en parle avec Pascal Villeneuve.